Alors que la relation entre la Russie et l'OTAN semble avoir touché le fond, que la ministre allemande de la Défense souligne la nécessité de faire de la dissuasion à l'égard de la Russie, son homologue russe l'a mise en garde contre une telle prise de position en rappelant les leçons de l'histoire. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, a répondu aux propos tenus par son homologue allemand Annegret Kramp-Karrenbauer sur la nécessité d'une politique de dissuasion envers la Russie à l'aide d'armes nucléaires, rappelant à Berlin les aléas de l'histoire. Dans le contexte d'appel à la dissuasion militaire de la Russie, l'OTAN rassemble conséquemment ses forces à nos frontières. Or, un ministre allemand de la Défense doit de savoir par quoi de telles opérations se sont terminées pour l'Allemagne et l'Europe, a indiqué Sergueï Shoigu. La sécurité en Europe ne peut être co-commune sans préjudice aux intérêts de la Russie, a-t-il souligné. Mais c'est justement l'OTAN qui n'est pas prête à un dialogue équitable sur le dossier et qui plus est, la mise en œuvre de son projet de dissuasion de l'Afghanistan s'est terminée par une catastrophe dont le monde entier doit maintenant s'occuper, a constaté Sergueï Shoigu. Le Kremlin a lui aussi tout de suite réagi aux déclarations de la ministre allemande indiquant par la voix de son porte-parole Dmitri Peskov qu'il était inutile de dialoguer dans de telles conditions. Le 18 octobre, le ministre russe des Affaires étrangères a annoncé que la représentation de la Russie auprès de l'OTAN suspendait son activité après la décision de l'Alliance de réduire drastiquement le personnel. Répondant à la question de savoir si l'OTAN réfléchissait à des scénarios de dissuasion de la Russie dans les régions de la Baltique et de la mer Noire, y compris dans l'espace aérien à l'aide d'armes nucléaires, Annegret Kramp-Karrenbauer a soutenu le 21 octobre que les pays occidentaux étaient prêts à avoir recours à de tels moyens pour qu'ils aient un effet dissuasif à l'avance et que personne n'ait l'idée d'attaquer les partenaires de l'OTAN. Le même jour, les ministres de la Défense de l'OTAN ont approuvé une ligne de conduite pour renforcer la dissuasion et la défense de l'Alliance, bien qu'ils aient dit ne pas penser qu'une attaque russe soit imminente. Cette nouvelle stratégie vise à se préparer à une offensive dans les régions de la mer Noire et de la Baltique, incluant éventuellement des armes nucléaires. Évoquant la menace croissante des systèmes de missiles russes, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a affirmé que l'Alliance n'avait aucune intention de déployer de nouveaux missiles nucléaires terrestres en Europe. Tout en convenant en répondant par la suite à la question d'un journaliste qu'elle avait accru sa présence en mer Noire, qui est d'une importance stratégique pour l'OTAN, ainsi que sa présence dans la région, dans les airs sur terre et en mer. Le Hezbollah libanais est plus nombreux que l'armée britannique. Dans l'un de ses récents discours télévisés aux combattants du Hezbollah, au peuple libanais, le secrétaire général du Hezbollah libanais, Sayed Hassan Nasrallah, a annoncé que les combattants composant l'armée de l'Axe de la Résistance ont désormais atteint le nombre de 100 000. Sur la base de ce chiffre annoncé par Sayed Hassan, le journal britannique The Times a tiré la conclusion, non sans sarcasme, que le nombre des combattants du Hezbollah libanais serait alors supérieur à celui de l'armée britannique. Qualifiant le chiffre de Sayed de 100 000 d'exagéré, The British Times, on a déduit que si ce chiffre s'avère exact, le nombre des combattants de la résistance libanaise est alors non seulement supérieur à celui de l'armée britannique, mais aussi à celui de l'armée libanaise. Ensuite, la publication britannique a alors tenu des propos plus modérés. Situation oblige. Arguant qu'aux yeux de certains experts, les 100 000 soldats annoncés par le secrétaire général libanais du Hezbollah comprendraient des réservistes et même des membres inexpérimentés du mouvement. Mais Mohannad Hajj, un expert du Karenji Endowment for International Peace, n'a pas perdu confiance dans la parole de Sayed, arguant que le chiffre annoncé par Sayed était loin d'être irréaliste car il incluait pas seulement tous les réservistes ayant reçu une formation militaire adéquate, mais aussi ceux qui n'ont aucune expérience du champ de bataille. Il va sans dire que le Hezbollah libanais s'est imposé comme une grande puissance grâce au soutien iranien et que, comparé à d'autres groupes armés libanais, dont l'armée libanaise, aucun d'entre eux n'est égal en nombre et en équipement au Hezbollah, alors reprit The Times. Le Hezbollah au Liban souligne que ses forces défendent toutes les tribus libanaises de toute confession contre Israël. Et c'est précisément ce qui constitue un obstacle majeur pour le gouvernement libanais, car c'est un groupe qui domine le pays. Les combattants libanais du Hezbollah ont enchaîné les victoires et ont ainsi acquis beaucoup d'expérience grâce à leur participation à la guerre en Syrie. Selon son rapport, l'armée libanaise formée et entraînée par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France compte officiellement moins de 85 000 soldats. Et en raison de la crise économique au Liban, ces soldats sont souvent sous-payés. Par ailleurs, le journal britannique Times nous apprend que Sayed Hassan Nasrallah a passé en revue les derniers développements au Liban et dans la région lors de son discours, ainsi que le rôle du parti libanais Al-Qawas dans le récent crime à Beyrouth. Pour la première fois, a déclaré Nasrallah, nous avons annoncé que notre force de combat du Hezbollah se compose de 100 000 soldats. Cela ne doit pas être pris comme une menace, mais comme un avertissement pour empêcher le déclenchement d'une guerre civile, a dit Sayed. Le Hezbollah reste un facteur positif pour la communauté chrétienne et non une menace, et je dois dire aux chefs militaires extra-régionaux que vous êtes trompé dans vos calculs, comme dans vos autres guerres, vous avez fait des erreurs et donc perdu, dit Sayed Hassan. Récemment, le commandement du front intérieur du régime sioniste, Avri Gordin, a avoué dans une interview que si Israël affrontait le Hezbollah au Liban, il devrait s'attendre à une pluie de 2000 roquettes par jour. Les villes de Tel Aviv et d'Assoud, dans le sud, ont vu le plus grand nombre de roquettes tirées depuis l'intérieur d'Israël lors de la récente guerre avec la bande de Gaza, ajoutait le responsable sioniste. En cas de conflit ou de guerre avec le Hezbollah, nous attendons des missiles multipliés par 5 au minima. La Grande Muette se meurt. Tout le monde sait que les Anglo-Saxons n'aiment pas l'armée française héritière de Napoléon. Alors, il faut un président américanisé jusqu'à l'os pour lui donner le coup de grâce. Cherchant à déclencher le début de la fin en réduisant parfois l'armée française à un groupe de mercenaires au service de l'OTAN, parfois via ce genre de mesures, OPEX 360 vous raconte la suite. Grâce à un meilleur taux de renouvellement de contrats, l'armée de terre va réduire son recrutement en 2022, titre OPEX 360. En 2021, l'armée de terre devrait trouver 15 500 recrues. Elle est visiblement en passe d'atteindre cet objectif, comme l'a laissé entendre le général Pierre Schill, son chef d'état-major CEMAT, lors d'une audition à l'Assemblée nationale. Davantage de gens se sont présentés par rapport aux années précédentes, a ainsi dit le CEMAT. Ainsi, pour les militaires du rang, nous avons 1,7 candidats pour une place, 3 candidats pour nos sous-officiers, 10 candidats pour nos officiers, a-t-il détaillé. Or, s'agissant des militaires du rang, la sélectivité du recrutement s'est rodée de manière continue depuis quelques années, s'approchant ainsi des faibles niveaux constatés au début des années 2000 lors de la professionnalisation. En outre, comme l'avait relevé le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire HCOM dans son 11e rapport, une difficulté en matière de recrutement et la hausse continue du taux d'inaptitude temporaire ou définitive parmi les candidats. Pour la seule armée de terre, la proportion des candidats médicalement aptes est ainsi passée de 83% à 76% entre 2011 et 2016. Un mode de vie de plus en plus sédentaire, une surconsommation d'écrans susceptibles de favoriser surpoids et myopie sont des facteurs susceptibles de conforter cette tendance, avait ainsi résumé le Sénat dans l'un de ses avis budgétaires en 2022. Recruter est une chose, éviter que les recrues dénoncent leur contrat durant leur période probatoire en est une autre. C'est ce que l'on appelle l'attrition initiale. En 2019, 31% des jeunes engagés ont quitté les rangs de l'armée de terre durant leur formation initiale. Là encore, les chiffres donnés par le CEMAT pour cette année sont encourageants. Le moment crucial reste la formation initiale. Pendant une période de 6 mois, les deux parties peuvent rompre unilatéralement le contrat. Nous devons réduire l'attrition initiale, mais l'écart est-elle entre la perception par un jeune civil, même bien informé de la vie dans l'armée de terre, et sa réalité dans toutes ses dimensions, y compris l'engagement personnel complet, qu'il y a un seuil incompressible? Nous souhaiterions que pas plus de 20% des jeunes partent avant 6 mois. Nous nous situons plutôt à 25%, mais cela reste correct, a indiqué le général Schill. Mais pour le CEMAT, ce qui compte le plus, c'est le rapport entre le nombre de jeunes qui renouvellent leur contrat au-delà de la première période de 5 ans et ceux ayant intégré l'armée de terre. Et si un peu plus d'attrition initiale se traduit par des renouvellements nombreux, ils sont aujourd'hui à 80%, le système est à l'équilibre. Pour nos militaires du rang, nous souhaiterions une durée moyenne de service de 7 ans. Nous en sommes à 6 ans et demi, a-t-il expliqué. Cela étant, davantage de contrats renouvelés signifie mécaniquement des besoins moins importants en matière de recrutement et c'est ce qu'il va se passer l'an prochain. Une meilleure fidélisation et un plus grand nombre de renouvellements de contrats par nos militaires du rang et nos sous-officiers nous permettront l'an prochain de réduire de 1500 le nombre des recrutements qui s'élèvera à 14 000, a en effet indiqué le général Schill. Et sur ces 1500 recrutements en moins, on estime que 1000 sont liés aux effets bénéfiques de la prime de lien au service et 500 à l'effet Covid. Nous ferons tout pour que celui-ci se transforme en une véritable adhésion, a précisé le CEMAT, pour qui l'armée de terre est à la fois jeune et expérimentée, c'est-à-dire dynamique et solide, avec une moyenne d'âge de 32 ans et de 28 ans au sein des régiments. En Turquie, Erdogan donne l'ordre d'expulser les ambassadeurs des 10 pays soutenant l'opposant Kavala. L'autocrate a demandé à ses services de déclarer persona non grata les représentants des États dont la France qui ont plaidé en début de semaine en faveur d'un opposant turc emprisonné depuis 4 ans sans jugement. Après plusieurs jours de menaces, il semble passer aux actes. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé ce samedi soir avoir ordonné l'expulsion au plus vite des 10 ambassadeurs, dont ceux de France, d'Allemagne et des États-Unis, qui ont réclamé la libération de l'opposant Osman Kavala. « J'ai ordonné à notre ministre des Affaires étrangères de déclarer au plus vite ces 10 ambassadeurs, persona non grata », a affirmé le chef de l'État lors d'un déplacement dans le centre de la Turquie, sans toutefois préciser la date à laquelle les diplomates devront quitter le pays. Mesure rare dans les relations internationales, déclarer persona non grata des diplomates ouvre la voie à leur expulsion ou leur rappel par leur propre pays. Ces diplomates devront connaître et comprendre la Turquie, a poursuivi Erdogan en les accusant d'indécence. Ils devront quitter le pays s'ils ne le connaissent plus, a-t-il ajouté. Du matin au soir, les diplomates répètent « Kavala, Kavala, mais celui dont vous parlez Kavala, c'est l'argent de Soros en Turquie », affirme le président durant une réunion publique faisant une nouvelle fois référence au milliardaire américain d'origine hongroise, George Soros, auquel il compare régulièrement l'opposant. Emprisonné depuis 4 ans, sans jugement, Osman Kavala est accusé depuis 2013 par le régime du président Erdogan de chercher à déstabiliser la Turquie. Dans un communiqué publié lundi soir, le Canada, la France, la Finlande, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Suède et les États-Unis ont appelé à un règlement juste et rapide de l'affaire. Osman Kavala, homme d'affaires et mécène turc devenu une des bêtes noires du régime. Dès le lendemain, les diplomates ont été convoqués au ministère des Affaires étrangères, les autorités turques jugeant inacceptable leur démarche. Le chef de l'État turc a ensuite brandi la menace d'une expulsion à son retour d'une tournée africaine jeudi, sans cependant prendre de mesures. Premier pays à réagir ce samedi soir, la Suède et la Norvège ont tous deux fait savoir qu'ils n'avaient reçu aucune notification officielle concernant leurs ambassadeurs respectifs à ce stade. Notre ambassadeur n'a rien fait qui puisse justifier l'expulsion, a indiqué une porte-parole du ministère norvégien des Affaires étrangères, Maseide, cité par l'agence de presse NTB, ajoutant que son pays continuera d'exhorter la Turquie à adhérer aux normes démocratiques et à l'état de droit auquel le pays s'est engagée en vertu de la Convention européenne des droits de l'homme. En décembre 2019, la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, avait ordonné la libération immédiate de Kavala en vain. À 64 ans, cette figure majeure de la société civile, homme d'affaires richissime et philanthrope né à Paris, a été maintenue en détention début octobre par un tribunal d'Istanbul qui a estimé manquer d'éléments nouveaux pour le remettre en liberté. Osman Kavala, qui a toujours nié les charges pesant contre lui, comparaîtra de nouveau le 26 novembre. Arrêté initialement pour sa participation au mouvement anti-gouvernemental dit de Gezi en 2013, époque à laquelle Erdogan était Premier ministre, il a ensuite été accusé de tentative de coup d'État et d'espionnage. Dans un entretien récent à l'AFP, Kavala a estimé que sa détention permet au régime de Recep Tayyip Erdogan de justifier ses thèses complotistes.